Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons lire un pavé. Alors oui, c'est parce que effectivement, cette bande dessinée, ce roman graphique est particulièrement épais que je mentionne cela. Pour autant, sa lecture n'est pas du tout indigeste. Il s'agit d'un album paru aux éditions Casterman et vous allez comprendre que Casterman s'est un tout petit peu spécialisé avec nos auteurs du jour dans ce registre. Il s'agit d'une personne qui a réellement existé, qui s'appelle Alice Guy, mais je doute que parmi nous, il y en ait beaucoup qui la connaissent. Et pourtant, elle a joué un rôle essentiel dans un domaine bien particulier. C'est un roman graphique qui est signé Catel et Boquet, Catel Muller et José-Louis Boquet, un duo d'auteurs que nous avons rencontré donc à plusieurs reprises déjà dans cette chronique et en librairie, Thierry.
Oui, c'est le énième opus de ce qu'on peut appeler une collection maintenant, de portraits de femmes puissantes, pour paraphraser une autrice. En préparant l'émission, je me faisais la réflexion qu'il y avait, dans la catégorie des portraits de femmes en bande dessinée, il y avait un peu deux options. L'option Pénélope Bagieu avec Culotté, des ouvrages moins importants mais plus exhaustifs dans le sens où ils présentent une série de portraits. Alors, il ne s'agit pas de bande dessinée à proprement parler, c'est plus du texte illustré. Et puis, il y a cette collection chez Casterman, assurée régulièrement par Catel Muller et José-Louis Boquet, monographie. Hyper documenté, c'est même très impressionnant ce travail de recherche, initié, si je ne m'abuse, mais vous allez me détromper si c'est le cas, par Kiki de Montparnasse.
Il me semble que c'est ça, effectivement.
Continué par Olympe de Gouges.
Joséphine Baker,
Benoît de Groult, avec un petit intermède sur René Goscinny.
Très intéressant aussi.
Très intéressant.
Mais dans un registre différent.
Et maintenant, Alice Guy. Alors Alice Guy, moi c'est quelqu'un que j'ai découvert par le biais d'un documentaire filmé sur une chaîne du câble. Enfin, si on peut encore parler du câble, ça fait un peu vieux jeu de parler du câble.
Alors on va dire de la fibre.
C'est de la fibre, de la fibre, ça fait plus up-to-date. Alice Guy, c'est un personnage totalement fascinant. C'est quelqu'un qui est né dans les dernières années du 19e siècle, qui est morte très âgée en 1968, je crois qu'elle avait 95 ans de mémoire, complètement oubliée, dont le parcours a été ramené à la lumière par rien moins que Martin Scorsese, qui en 2011 a entrepris une rétrospective des travaux d'Alice Guy, parce que Alice Guy, c'est quelqu'un qui a accompagné les tout débuts, mais la préhistoire du cinéma, tant du point de vue technique qu'artistique. Il faut savoir que dans les premiers inventeurs du cinéma, il y avait beaucoup de Français, mais il y avait aussi une Française, Alice Guy.
Une Française issue d'une famille cultivée qui a eu un parcours assez délicat, dès le début d'ailleurs.
Elle grandit dans une famille aimante, cultivée, vous le disiez. Son père s'occupait d'une chaîne de librairies au Chili. Donc c'est une enfance de découverte, de curiosité, d'épanouissement total. Jusqu'au drame, c'est-à-dire que le père fait des mauvaises affaires, déroute financière, mort prématurée du père, mort du fils aîné, ce qui était idyllique devient une tragédie. La famille repart en France. Enfin, il y aura beaucoup d'allers-retours entre les deux continents tout au long de la vie d'Alice Guy. Elle va apprendre un métier qui était pas banal à l'époque, sténographe, pour être plus précis. Donc un métier qui lui permet d'assurer des revenus financiers corrects pour toute sa famille. Son indépendance. Et elle va rentrer dans une entreprise d'appareils photographiques où elle va rencontrer Léon Gaumont, qui est encore qu'un employé. Elle et lui ont beaucoup d'ambitions artistiques, enfin d'ambitions techniques et artistiques, parce que les deux se mélangent au départ. Ce qui va devenir le cinéma, et c'est ce qui est passionnant dans ce livre, c'est d'abord une véritable guerre entre les promoteurs de différentes techniques, parce que c'est un art balbutiant, le cinéma. Techniquement, il y a beaucoup d'options qui s'affrontent, beaucoup d'appareils qu'on a oubliés aujourd'hui ou qu'on redécouvre dans les documentaires consacrés à cette période ou dans les ouvrages spécialisés, avant que se dégagent des techniques particulières de construction de ces appareils. C'était un peu la foire d'empoigne entre les différents inventeurs, la guerre des brevets. Des gens comme Alice Guy vont jouer un rôle déterminant. Paradoxalement, le côté artistique va survenir parce que tous ces appareils, il faut les vendre. Il faut les vendre aux particuliers. Comment les vendre? En faisant la promotion en tant qu'appareil permettant de réaliser des films. Et ces films, c'est Alice Guy qui va s'en charger. Comme je le disais en présentation, parmi les tout premiers réalisateurs de cinéma, il y a une femme. Et une femme qui va réaliser... Alors, asseyez-vous si vous ne l'êtes pas, ou accrochez-vous au meuble si vous en avez à portée de main. Elle va réaliser 300 films.
Bon, alors il faut avoir conscience que ce sont généralement des courts-métrages.
Très courts-métrages. Mmh. Mais tout de même, elle va réaliser le premier péplum, Une vie de Jésus. Elle va réaliser les premiers films féministes, dans le sens où, sous la forme de scènes humoristiques, on voit ces messieurs s'occuper des enfants et faire le ménage, alors que les femmes se prélassent, fument le cigare et houspillent la jante masculine. C'est quelqu'un qui, quel que soit le domaine qu'elle touche, vise à l'excellence, elle n'a peur de rien. Elle a une imagination sans limite, une compétence totale dans tout ce qu'elle entreprend, et va, sur l'instigation de Léo Gaumont, qui est devenu entre-temps le patron d'une entreprise florissante, elle va traverser l'Atlantique, elle va fonder sa propre société de production, elle va produire des films là-bas. Non seulement Alice Guy est parmi les premiers auteurs, donc autrices de films de cinéma, mais avant les Américains, sur le territoire des Américains.
Alors malheureusement, Alice Guy va se marier, et ça ne va pas être une réussite.
Elle va avoir un enfant, ce qui est une réussite de toute façon.
C'est sûr.
Mais elle va se marier avec quelqu'un qui va être un très mauvais gestionnaire, qui va la tromper avec une actrice, qui va être un mauvais gestionnaire, je le disais, qui du coup va précipiter la ruine de cette société de production. Alice Guy va se retrouver avec des dettes, elle va être obligée avec sa fille de retraverser l'Atlantique pour essayer de retrouver une stabilité émotionnelle et financière. Elle repassera du côté de l'Amérique où elle écrira des contes pour enfants, mais surtout, toute la fin de sa vie, elle va se retrouver dans un anonymat total. Elle ne pourra plus disposer de ses films ayant perdu les droits d'auteur. Elle ne pourra même plus les revoir. Elle mourra, on le disait, oubliée dans une quasi-misère. Et passer dans l'anonymat total de l'histoire du cinéma, jusqu'à ce qu'on la redécouvre ces dernières années.
Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que ces films ont été conservés, alors que ce n'était pas si simple que ça.
Oui, c'est ce qui laisse rêveur, c'est qu'ils risquaient, faute d'entretien, de disparaître d'eux-mêmes, parce que c'est... Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques fastidieux, mais c'est les films de cette époque, du fait de leur support, ont tendance à s'autodétruire. Miraculeusement, on en a encore beaucoup qui sont disponibles, qui sont visibles, et c'est ce qui est montré dans cette biographie de Catel et Bocquet. J'ai lu des critiques concernant cet ouvrage. Est-il autant réussi que certains autres? Je pense à Kiki de Montparnasse qui était... Le personnage était totalement fascinant et puis on y croisait beaucoup d'artistes en couleur. Joséphine Baker aussi était passionnant à lire. La volonté d'exhaustivité peut-être se retourne contre leurs auteurs avec, si on est méchant, quelques scènes redondantes. Et puis beaucoup de détails techniques, mais c'est vrai que s'ils sont indissociables, ces détails techniques, de l'histoire racontée, parce qu'ils ont une telle importance dans cette préhistoire du cinéma qu'il était difficile de ne pas s'y consacrer, d'en reparler. Ils sont essentiels. Et est-ce qu'ils sont redondants par rapport aux précisions qui sont apportées en fin de l'ouvrage avec reprise biographique, éclaircissement, etc. Ne nous plaignons pas que La mariée est trop belle.
C'est sûr que Alice Guy était moins glamour que Kiki de Montparnasse ou encore que Joséphine Baker. Le parcours n'est pas le même, mais c'est absolument impressionnant de réaliser que cette réalisatrice productrice a effectivement eu un tel parcours et a connu le succès aux États-Unis, même si ce succès était relatif puisqu'elle était sur la côte Est, alors que à cette même période, on va décider en fait de développer le cinéma sur l'Ouest.
Oui, c'est presque une coïncidence au moment où Alice Guy fait faillite, enfin, subit la faillite de sa société de production. Les Américains reprennent la main sur leur propre territoire et inventent Hollywood. Sur la côte ouest, Hollywood. Pourquoi Hollywood? Parce que le terrain n'est pas cher, parce qu'il y a du soleil et de la lumière toute l'année. Et la face du cinéma vient de changer d'un coup. Les Américains ont repris la main. Alors que la France était la nation pionnière en matière de cinéma, la donne change brutalement. Voilà, reste la mémoire d'Alice Guy, que j'ai redécouvert en tant que personnage il y a peu de temps avec un documentaire qui était très émouvant. Alors peut-être plus émouvant encore parce que plus éclairant sur les premières années d'Alice Guy et puis son apport artistique. N'hésitez pas à lire cette biographie qui est une somme.
Et puis je reviens sur ce que vous disiez Thierry tout à l'heure par rapport à la dimension documentaire. Moi j'ai l'impression que ça permet de réaliser ici que la bande dessinée c'est pas seulement du loisir, c'est aussi du loisir, mais là il y a vraiment matière à approfondir, à aller encore plus loin que le récit.
Oui, c'est une réflexion qu'on pouvait se faire aussi à propos d'un des ouvrages précédents du même couple, Catel et Bocquet, c'est Olympe de Gouges. Parce que là on est pas dans le glamour du tout, on est dans le politique au sens le plus noble et le plus élevé du terme, le plus austère aussi. Olympe de Gouges qui a disparu tragiquement pendant la Révolution. C'était aussi une personnalité qui méritait une biographie en bande dessinée, avec les moyens de la bande dessinée, le charme de la bande dessinée, puis la qualité de réalisation coutumière de ses auteurs. Mais c'était aussi un personnage dont le parcours était tellement complexe et jalonné de tellement de rencontres qu'il fallait détailler, au risque d'être redondant, toutes tes forces et méritoires, et il débouche sur la révélation d'un personnage totalement fascinant. Lisez La vie d'Alice Guy.
Avec Catal Muller au dessin et José-Louis Boquet au scénario, même s'ils le travaillent ensemble, c'est une parution Casterman qui vaut effectivement le détour et qui vous apprendra plein de choses. Merci beaucoup Thierry de nous avoir présenté ce livre. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre ouvrage dans un autre registre, mais tout aussi passionnant.